LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Pour qu'on puisse se faire une idée de ce que l'on voit ici, ça peut être évocateur de savoir qu'on a tourné un film ici. C'était un film sur la guerre de Bosnie et Hanovas a servi de décor.
Déshérence. Olivier Chaumel, François Test. Aujourd'hui, Hanovas, village fantôme, village maudit, village insubmersible.
Lors de mon premier séjour en 2015, il y a deux images qui me touchent. C'est une image prise dans une rue de Hanovas où on ne distingue que des murs en ruine. Et au premier plan, il y a l'encadrement d'une fenêtre, à moitié mangée par les ronces, où on devine les fragments d'une peinture bleu indigo. Au milieu de cette désolation, il y a une trace de vie qui n'est plus, certes, mais une trace de vie. Et ça rend un peu d'humanité à cette image.
La couleur vive.
La couleur vive, oui. Oui, au milieu de ce gris, c'était un jour de mauvais temps, le ciel était plombé, c'était une ambiance vraiment très particulière. La deuxième photo qui me touche lors de cette première visite, c'est la photo du cimetière. Quelques misérables tombes, deux croix en fer rouillé et la ronce partout qui gagne et qui recouvre les sépultures.
Siglos a orillas del Ara, frente a la isla de la Melilla y entre las costas de Fiscal y Voltaña.
Cette Habanera triste, interprétée par la Ronda de Voltaña, raconte les misères qu'on a infligées à un joli bourg des Pyrénées aragonaises qui n'avait rien demandé. Nous sommes dans le Haut-Aragon. De la route d'intérêt local qui va de Fiscal à Ainsa, on aperçoit l'église, bien debout, et on a, d'un coup d'œil furtif, une vue sur le village en contrebas. Une fois l'automobile garée convenablement, on accède à Hanovas à pied. Et là, stupéfaction, les maisons du village sont ruinées, dépourvues de toits, envahies de végétation, mais debout, entre guillemets. La destruction de Hanovas a suscité la plus profonde désolation pour ses habitants, mais aussi, rapidement, une résistance farouche. On devine qu'elles ont été belles, grandes, ces maisons, savamment construites de belles pierres, presque cossues pour certaines. Les ouvertures sont étroites, nous sommes dans les Pyrénées espagnoles, et les hivers peuvent être rigoureux. Que s'est-il passé? Une mécanique implacable et totalement désincarnée s'est abattue sur cette paisible localité, tout au long du XXe siècle, ainsi que sur deux autres villages riverains du Rio Ara, plus petits, Lacor et La Belilla, situés sur l'autre rive du cours d'eau. Le mot d'ordre était approximativement « il faut virer tous ces pecnots ». C'est ce qui a fini par se produire dans un climat d'une violence souvent inouïe.
Oscar Espinosa, on est à Hanovas, un village qui a un drôle d'aspect, mais on en parlera plus tard. Qu'est-ce que font ces tables en marbre, j'ai l'impression, modernes, à l'entrée du village?
Ces tables, ce sont les habitants qui les ont installées il y a plusieurs années. Maintenant, elles sont très utilisées par les touristes, moins par nous parce que nous avons d'autres lieux où nous installer. Pendant plusieurs années, c'était le seul lieu où on pouvait se réunir parce qu'il n'y avait aucun toit à Ranovas qui tenait debout. Et c'est là, autour de ces tables, le 12 août 2013, qu'on a décidé avec plusieurs voisins de reconstruire le village de Ranovas.
On a repéré une fontaine un peu particulière en contrebas. Là. Est-ce qu'on pourrait aller y jeter un œil ?
Je m'appelle Pierre Dufour, je suis photojournaliste. La première fois où je me suis rendu à Ranovas, c'est en septembre 2015. Pour arriver à Ranovas, il faut franchir un tunnel qui sert de frontière entre la France et l'Espagne et prendre la route qui mène de Ensa, en Aragon, jusqu'au parc national d'Ordesa. La route chemine en balcon au-dessus des gorges très étroites et magnifiques. Et au débouché de ces gorges, il faut, pour descendre à Ranovas, emprunter un petit chemin, un mauvais chemin de terre qui serpente un moment le long du Rio Ara. Sur la droite, des pelles mécaniques au repos visiblement sont en train de commencer les travaux de mise en œuvre d'un pont sur le Rio. Mais on ne peut franchir ce jour-là le fleuve qu'au moyen d'une passerelle suspendue, d'un pont suspendu, que je franchis donc à pied. Après le pont, je pénètre dans ce village et là de suite le ton est donné. Sur la façade d'une maison en ruine, il y a une plaque émaillée avec inscrit Ranovas dessus. Des fils électriques pendent le long des murs et là on s'engage dans une ruelle étroite. Et là, c'est la désolation, c'est ce qui me fait penser immédiatement à Oradour-sur-Glane, le village martyr français. Ce qui est bouleversant, c'est qu'il y a toujours des traces de vie, de ce que fut la vie à Ranovas. On touche du doigt une vie qui fut et qui n'est plus.
Doublée d'une profonde injustice.
Doublée d'une profonde injustice, bien évidemment, puisque c'est le ressort, l'injustice est le ressort et le point de départ de toute cette histoire.
Joli glouglou. C'est une source, en quelque sorte.
Si.
Elle est potable.
Si, muy buena. Hace unos años hicimos un análisis de agua y la dieron.
On a fait analyser l'eau et elle est très bonne.
On peut se dire que cette source a été le seul point d'eau du village pendant des années.
À Ranovas, il n'y avait pas l'eau courante. La seule eau qu'ils avaient, c'était celle qu'ils venaient chercher ici.
Ça servait de lavoir, peut-être aussi.
Le lavoir, il était ailleurs, à côté de la rivière. La fontaine, si vous regardez, il y a des symboles. Ce sont des serpents entrelacés. On nous a toujours dit que ça signifiait que l'eau était d'une grande pureté. Et on a pris cette image symbole de Ranovas pour la Fondation San Miguel qu'on a créée.
On va peut-être s'éloigner du glouglou.
Je m'appelle Marie Sancho Menjón, je suis historienne et j'ai écrit il y a presque 10 ans un livre consacré à l'histoire de Ranovas. Parce que c'est une histoire terrible. Ça s'est passé aux portes du parc national d'Ordesa, dans les Pyrénées espagnoles, les Pyrénées aragonaises, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière française.
Et ça s'est passé au XXe siècle.
Depuis le début du XXe siècle, la politique hydraulique de l'Espagne avait prévu la construction de nombreux barrages. Les projets de ces barrages ont été élaborés très tôt, mais leur construction pour les chantiers de grande ampleur n'ont vraiment démarré qu'à partir des années 50-60. Et celui de Ranovas était vraiment un projet énorme. Il devait inonder 3 villages et un immense territoire de la partie centrale de la vallée du Rio Ara.
Oscar Espinosa, on peut décrire la situation topographique du village.
Il y a quand même des montagnes d'auteurs respectables tout autour.
Janovas n'est pas vraiment à une grande altitude, même si on pourrait le penser, car on est au milieu des Pyrénées. Janovas est à 700 mètres d'altitude, mais c'est vrai que le village est entouré de sommets entre 2000 et 3000 mètres d'altitude.
Ce qui fait qu'on est à l'ombre. Et qu'en hiver, il fait quand même un peu froid.
En fait, Janovas est en fond de vallée, et donc c'était un lieu idéal pour construire un barrage.
Je me demandais, Oscar Espinoza, si le mot Janovas avait un sens en espagnol.
Les habitants de Janovas ont un surnom, les langostos. Ce sont des grandes sauterelles. Moi, j'irai bien au soleil, là, parce que là, on va crever de froid. Le vent qui souffle dans cette ruelle est très froid.
Han pasado muchos años, no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar?
L'abandon de Janovas a été progressif et c'est devenu petit à petit un endroit tout de même fantasmatique dans un paysage de moyenne montagne, des fois un peu haute. C'est très isolé comme endroit.
La désertification de Janovas et l'abandon des villages tout autour n'ont pas été progressifs. Ça s'est produit d'un coup, sur à peine 10 ans. À partir de la publication en 1955 du Journal officiel national qui a déclaré ces travaux d'utilité publique. On parle ici d'un barrage de papier qui était purement administratif parce que pendant de nombreuses années, tous ces projets ne sont pas sortis des bureaux. Ici, à Janovas, il ne se passait rien. Les gens continuaient à vivre normalement comme si de rien n'était.
Quelle a pu être, selon vous, l'attitude des habitants de ce village et de ceux qui suivent lorsqu'on leur a fait savoir petit à petit que leur village, leur famille habitait sans doute depuis des siècles, allait disparaître sous l'eau? La résignation?
Ça a été la pire nouvelle qu'ils ont reçue dans leur vie, et à partir de là, petit à petit, ça les a détruits. Il faut savoir que c'était des familles d'agriculteurs qui ne savaient pas faire autre chose. Ils avaient toujours habité ici depuis des générations, et soudain on leur a présenté le projet comme quoi il fallait qu'ils quittent leur maison et leur terre. Ces gens étaient des agriculteurs, beaucoup d'entre eux n'avaient pas fait d'études, et ils ont été trompés par l'État, qui au début leur a promis beaucoup de choses qui n'ont jamais été tenues.
L'histoire à proprement parler de Janovas et de sa destruction commence sous Franco, dans les années 60, quand Franco met en place une politique hydroélectrique très importante dans toute l'Espagne, et particulièrement dans ses vallées pyrénéennes. Vallées pyrénéennes qui, pour la plupart, sont dépeuplées. À Janovas, c'est dans cette vallée du Sobrarbe, il fait coup double, c'est-à-dire qu'en créant une possible énergie hydraulique, il vide du même coup des villages qui, durant la guerre d'Espagne, avaient la réputation d'être pro-républicains, et dont on savait à ce moment-là que le peuple ne lui était pas acquis. On appelait cette vallée la vallée rouge.
C'est la raison pour laquelle on ne leur a pas demandé leur avis.
Exactement, exactement.
Il y avait combien d'habitants à Janovas
Et dans les deux autres villages concernés, non loin d'ici.
Environ 1500 personnes.
Il y a une résistance qui s'est mise en place vis-à-vis du projet de barrage de retenue et de la disparition de ces villages.
Non, dans les années 20, on n'en savait rien. Tout ce qui existait était dans les bureaux. Et quand on a commencé à dire qu'en effet, un barrage allait être construit, on était déjà sous la dictature franquiste et on ne pouvait pas s'y opposer.
Il y a eu un profond mépris à l'égard des habitants. Une brutalité, des pressions, même des menaces.
Quand finalement les employés de l'entreprise hydroélectrique Iberduero sont arrivés pour exproprier, oui, ça a soulevé certaines tensions entre les villageois, parce qu'il y avait des gens qui voulaient vendre, mais il y en avait d'autres qui ne voulaient pas partir. Alors, pour entre guillemets faire pression, pour inciter les gens à partir, ils ont utilisé toutes sortes de ruses et d'abus, outrepassant largement la loi. Ils ont dynamité des maisons, ils ont barré des chemins d'accès.
Les impressionner aussi.
Ils ont fait pression de mille manières différentes. En coupant des routes, en coupant l'électricité, en détruisant des champs et en arrachant leur culture. Ils ont aussi détruit le pont pour empêcher l'accès au village. Et un événement très traumatisant, en plus des maisons dynamitées, ça a été la fermeture de l'école.
C'est d'une brutalité inouïe, peut-on dire, Mari Sancho Mencron.
Oui. D'autant plus que lorsqu'ils ont dynamité les maisons, ils n'ont prévenu personne. Les habitants ont vu arriver les camionnettes qui transportaient les explosifs et ils ont couru chercher les enfants qui étaient dehors pour les mettre à l'abri à l'intérieur. Puisque quand la dynamite explose, les pierres sont projetées dans tous les sens. Ça aurait pu tuer des gens.
La violence qui a été employée, je pense, est directement proportionnelle à la résistance des habitants qui se sont accrochés à leur maison, qui n'ont pas voulu lâcher l'affaire. Donc il y a eu des menaces, les gens n'ont pas cédé aux menaces et on en est arrivé au point où l'entreprise Iberduero, qui était le concessionnaire chargé de la construction de ce barrage, a employé les grands moyens jusqu'à dynamiter les maisons, expulser les gens, couper l'eau, l'électricité, etc. Enfin, les moyens employés ont été terribles. Et Iberduero a détruit également tout ce qui permettait à ses agriculteurs de vivre. Les sources, les puits, ils ont saccagé les champs. Enfin, vraiment, il ne fallait plus qu'il y ait de possibilité de retour.
Jesús Arces, vous êtes originaire de Ranovas, vous y êtes peut-être même né.
Oui, moi je suis née dans cette maison ici en face en 1953.
Vous revenez ici avec quel sentiment ?
Alors moi je reviens ici avec un sentiment de beaucoup d'énervement, beaucoup de douleur et en même temps beaucoup de joie de pouvoir être à nouveau ici.
Et votre famille et vous, Jesús Garcés, a dû quitter le village quand ?
Nous sommes partis
en 1984. Nous avons été les derniers à partir d'ici.
Est-ce que l'aspect alors était le même ? Ou est-ce que la dégradation s'est poursuivie, ce qu'on a tendance à penser ?
Dans
le village, il y avait beaucoup de maisons dont les façades, ça allait, elles tenaient, mais à l'intérieur, elles étaient détruites. Ils ont commencé à dynamiter les premières maisons. Et mon père et un autre habitant d'ici du village, ils ont réussi à arrêter ça. Et après, puisqu'ils ne pouvaient plus dynamiter les maisons, ils entraient et ils détruisaient l'intérieur des maisons à la main.
Et vous avez assisté à ces opérations ?
Sí, claro. Oui, oui. Estábamos aquí
Évidemment.
Viviendo.
Et on habitait ici et on voyait tout tous les jours.
Vous avez été scolarisé à Hanobas avant qu'on détruise l'école.
Sí, sí, sí. Yo
oui,
iba
moi,
a la escuela, yo era
à l'école
de los...
et moi j'étais les plus âgés de l'école quand ils ont fermé l'école et ils ont viré la maîtresse. Moi j'avais 11 ans.
Il paraît qu'on a expulsé l'institutrice en la tirant par les cheveux.
Sí.
Alors oui, Entró cette histoire est vraie. C'est un employé d'Iberduero, un fonctionnaire qu'ils avaient en tant qu'homme de main qui est entré. On était 11-12 enfants dans l'école ce jour-là et il a donné un coup de pied à la porte et il a attrapé la maîtresse par les cheveux et il lui a dit « Je t'ai dit hier soir de ne plus revenir dans ce village ». Alors c'est là qu'ils nous ont tous laissés sans école. J'avais 11 ans, c'était, l'école a été finie pour moi. Mes petits frères, ils ont passé 2 ans sans école et après ils sont repartis à la côte, le village ici à côté, où là ils ont laissé une maîtresse.
Tous ces abus, toutes ces pressions envers les villageois de Hanovas se sont déroulés alors que les travaux n'avaient en aucun cas la possibilité de démarrer. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais démarré le chantier parce que l'entreprise, très tôt, dès le début, a eu des doutes sur les vrais bénéfices qu'aurait pu rapporter le barrage. Et leur manière de faire pression sur l'État pour les convaincre de financer une partie du projet, c'était de dégager les habitants de force et de dire « Maintenant que le mal est fait, les travaux sont prêts à démarrer ». Comme le disait la dernière habitante de Hanovas, Francisca Castillo, les villageois n'avaient aucune valeur.
Il semble avoir lu que ça s'est fait d'abord sur un temps très long et aussi dans une sorte de folie technocratique.
Comme je vous disais, à l'époque, ils n'étaient pas prêts du tout. La plupart n'avaient pas fait d'études et étaient un peu ignorants des questions administratives. Ils faisaient comme ils pouvaient avec ce qui leur arrivait, selon ce qui leur venait à l'esprit. Les négociations autour des expropriations ont été très longues et étaient remplies de mensonges de la part de l'autorité. Ils distillaient des informations fausses pour monter les voisins les uns contre les autres.
Et il y avait aussi une recherche de profit dans cette histoire.
Je ne pense pas que c'était pour faire de l'argent, c'était plutôt que les gens de Hanovas les dérangeaient et ils voulaient qu'ils partent au plus vite.
J'ai une question annexe, Jesús Garcés. Est-ce que le franquisme a eu une influence sur l'évolution du projet de barrage ici et la façon dont se sont comportées les autorités?
Total.
Absolument. Le franquisme ici, la dictature de Franco nous a écrasés.
Votre famille et vous, Jesús Garcés, est parti habiter où?
Quand ils nous ont virés, nous sommes partis à Campo d'Arbe, un village à 15 km d'ici.
Vous y êtes allés à reculons, je suppose.
Oui, tout à fait. Le matin, les fonctionnaires d'Iberduero se sont présentés le matin chez nous et ils nous ont dit qu'ils nous accompagnaient à partir du village. Et les gendarmes aussi, tout à fait.
Estuvimos todo el día cargando.
Alors on a passé la journée à charger et à prendre toutes nos affaires, tout ce qu'on pouvait emporter avec nous, car le lendemain on ne pouvait plus revenir. Alors eux, ils ne nous ont pas dérangés, mais ils sont restés là pour vérifier que vraiment on partait.
Casualidad, en el 84 ya era presidente.
Alors, il est vrai aussi qu'à l'époque, il n'y avait plus le franquisme, c'était la démocratie. Et donc, il y avait un président, Felipe González, et c'est lui qui nous a virés d'ici.
Dites-nous à quelle date Felipe González s'est installé au pouvoir.
En juin 1982, c'était la démocratie.
Orfatos entre las ruinas, restos de naufragio en una triste playa. Aún hay noches en que navega por mis pesadillas un buque fantasma. Y siempre que surca mi alcoba, despierto empapado de sudor y rabia. Pues sé que ha venido a anunciarme que en mi pueblo muerto ha caído otra casa. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar?
Qu'est-ce que vous pouvez nous donner les principaux jalons historiques de cette aventure depuis les premiers projets qui sortent, si j'ai bien compris, en 1911 jusqu'à l'abandon total du projet de barrage, Oscar Espinosa?
Dans
les premières années du XXe siècle, apparaît le projet gigantesque des trois barrages. Dans les années 40-50, ils se rendent compte que ce projet est impossible car il est près du parc national d'Ordesa. Dans les années 60, c'est là qu'ils décident de construire le barrage de Ranovas et qu'ils commencent les expropriations dans les villages. En 1984, la dernière famille qui habitait Ranovas quitte le village. En 2001, on apprend que le résultat de l'analyse d'impact environnemental est négatif et donc que le barrage ne pourra pas se faire. Et c'est à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui que commence le processus de réversion des terres et du patrimoine.
Je propose que, pour en voir un peu plus que 8 façades ruinées et une restaurée, disons, on se mette à déambuler en vous écoutant décrire en quoi ça consiste. Marie Sancho.
La destruction est totale, il n'y a pas une maison debout. Il y a des pans de murs qui se dressent face au ciel. Ce qui est très touchant aussi, c'est que la ronce, la végétation a pris possession du lieu. Et c'est à travers cette végétation qu'on devine les traces de vie, un manteau de cheminée écroulé, une fenêtre avec son linteau encore peint.
Mais la végétation, ça va vite par définition.
Ça va très très vite, la nature reprend vite le dessus, c'est clair.
Mais les murs sont debout.
Les murs sont debout, mais par pans. Il n'y a aucune maison qui reste intacte.
C'est presque drôle. Il y a une grille sous une voûte qui porte la mention suivante. Peligro, edificio en ruinas, on comprend. Danger, édifice en ruine, alors que la totalité du village est en ruine. Sauf quand même quelques maisons qu'on a remontées, sans doute au prix d'un travail fantastique.
Ranovas era un pueblo grande.
Ranovas était un grand village. Il y avait environ 400-450 familles.
Et si continuamos.
Et si on continue, on va voir comment était le cœur de Ranovas. Là, c'était la maison commune. C'est ici.
Esta ha sido restaurada, reconstruida hace muy poco.
Elle a été restaurée et reconstruite il y a peu de temps. Ici, il y avait la mairie, la salle de bal pour faire la fête. Et là-bas, il y avait l'école et en haut, le logement de l'institutrice.
Je me disais, tiens, c'est bizarre, on n'a pas vu d'église à Ranobas. Et finalement, on tombe dessus, sauf qu'elle est à l'écart du village, qu'elle n'a pas été touchée.
La iglesia se conservó mejor.
L'église a été mieux conservée. Elle n'a pas été dynamitée, mais elle a été affectée par le temps. C'est vrai aussi qu'elle a été utilisée dans les années 60 comme une étable pendant un moment.
Et si elle n'a pas été touchée, c'est que ça aurait sans doute été plus scandaleux encore que le reste.
Ça aurait pu être perçu comme un sacrilège d'enlever l'église,
mais l'utiliser comme une étable pour rassembler le bétail montrait bien qu'elle n'était importante pour personne. De la même manière que l'église a été louée à des éleveurs de la région de Huesca, pendant qu'Iber Duero empêchait les habitants de Ranovas de cultiver leurs terres dans les années 60-70, ces terres ont été louées à d'autres agriculteurs pour essayer de pallier le manque de bénéfices. Iber Duero était le maître et seigneur de toutes ces vallées. Il faisait ce qu'il voulait.
Et ça vous scandalise, ça ?
Pues claro.
Bien sûr que ça me scandalise. C'est absolument illégal de se comporter comme un seigneur féodal en se fichant éperdument de tout le monde.
Spinoza, vous êtes à l'origine d'une fondation concernant l'histoire et l'avenir de Ranobas. Quel but poursuivez-vous au sein de cette association, on va dire ?
Nous avons créé la fondation San Miguel précisément pour avoir une figure juridique pour aider la restauration de Ranobas.
On peut supposer que San Miguel, c'est le nom de l'église.
Oui, tout à fait, c'est le patron de Ranovas.
Comme
vous savez, c'était un barrage qui finalement ne s'est pas fait. Il devait principalement affecter Ranovas, le village de la Velila et celui de l'Accor. Et du coup, ce manque de développement a fini par affecter toute cette vallée et aussi la vallée de la Solana, qui est à côté, où il y a 16 villages qui sont à l'abandon de nos jours. Ranovas était le village principal de la région. À Ranovas, en plus de la mairie, il y avait aussi une boucherie, deux magasins, un marché, un bar, un tapissier, un coiffeur. Tout se passait ici avant le projet de barrage. C'était une petite ville, mais qui faisait vivre tous les autres villages. Et donc, si cette petite ville disparaît, tous les autres petits villages disparaissent aussi. Avant les années 60, il y avait très peu d'argent, plutôt du troc. Les habitants des villages plus hauts, c'est-à-dire de la vallée de la Solana, descendaient ici avec la viande, etc. Et ils l'échangeaient à Ranovas contre des céréales. Le chat nous dit bonjour ce matin.
Un gentil chat.
Cette chatte a été abandonnée cette année ici et elle est restée habiter avec nous. Nous l'avons adoptée.
Et qui la nourrit ? Vous ?
Oui, c'est nous qui la nourrissons. Jesús habite ici de façon continue, donc c'est lui aussi qui la nourrit.
Comment elle s'appelle ?
La llamamos Michinina. Bueno, y como os decía, con...
Et donc, comme je disais, c'est pour ces raisons qu'il y a eu un manque de développement, car avec l'expropriation de Ranovas, qui était le village le plus important de la vallée, les autres villages plus petits ont été touchés eux aussi.
Et j'ai lu un argument très surprenant de la part des autorités, qui est le suivant. Il y a trop de petits villages isolés, cela nuit à l'image de l'Espagne. Je ne comprends pas très bien ça.
Il faut savoir qu'à cette époque-là, ce qui était important, c'était d'avoir de la main-d'œuvre près des villes. La montagne ne comptait pas. On ne la voyait pas comme un facteur de développement. Alors on poussait les gens à abandonner les villages pour aller vers les villes où l'on avait besoin de main-d'œuvre.
J'ai lu quelque part que sur le versant espagnol des Pyrénées, on pouvait dénombrer 160 villages ruinés.
C'est ce qui m'a été dit. Je n'avais pas connaissance de ce nombre, mais je savais qu'il y en avait plus d'une centaine. Et ça illustre d'ailleurs ce qui est très vite devenu pour le gouvernement autonome de la province aragonaise. C'est devenu très vite un problème d'ordre quasi écologique, c'est-à-dire que tous ces villages qui ont été vidés de leurs habitants, ces terres qui entouraient ces villages étaient autrefois cultivées. Et cette déprise de ces villages et de ces terres a fait qu'un jour, on a été confronté à la végétation, à la broussaille, au risque d'incendie. Si bien qu'aujourd'hui, le gouvernement autonome aragonais s'inscrit dans une démarche inverse, c'est-à-dire qu'on envisage de plus en plus de repeupler ces villages, de recultiver les terres, de faire paître des troupeaux de chèvres, de moutons, afin de faire aujourd'hui le travail que faisaient hier les gens qu'on a expulsés de leur village et de leur vie.
Oscar Espinosa, vous avez un lien familial avec l'ancienne population de Ranova?
Si,
tout à fait. Mon père et mon grand-père sont du village.
Est-ce qu'on en parlait beaucoup dans votre famille?
Toujours, depuis toujours. Moi, dès que je suis né, dès que j'ai eu 40 jours, ils m'ont déjà amené ici à Ranova.
Et on en parlait comment?
Pues con mucho dolor.
Avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de rage, beaucoup de tristesse. Et moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont toujours restés très courageux et qu'ils n'ont jamais baissé les bras pour que le projet ne se fasse pas. Le jour même où les habitants ont été expropriés, ils envisageaient déjà la manière dont ils allaient pouvoir revenir au village.
Nous sommes au cimetière de Ranovas, on est juste à côté de l'église. C'est un petit espace avec de la terre, des tombes et des niches funéraires. On est entouré de montagnes et d'ici on entend le murmure de la rivière Ara au fond de la vallée. Le cimetière est évidemment l'un des lieux les plus importants pour les habitants de Ranovas. C'est le premier lieu que les héritiers ont voulu récupérer. Et l'un des souhaits les plus forts de ceux qui sont revenus, c'était de pouvoir revenir réenterrer ici leurs morts qui n'ont pas pu être enterrés dans ce cimetière lorsqu'ils sont décédés.
Je suis assez surpris que dans le cimetière de ce village, c'est tout petit, il y a une vingtaine de tombes, ce qui est peu pour un village qui comptait 400 habitants. Quel a été le mécanisme de ça ?
Il faut savoir que tout cela devait être inondé, donc il est fort probable que certains habitants soient partis avec leurs morts. Sur ce point, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
En cheminant dans le village, j'ai gagné très vite un petit monticule qui surplombe le village et sur lequel se dresse l'ancienne église, elle-même en ruine. Mais l'église est entourée dans une gangue de végétation qui l'étouffe. Donc je monte jusqu'à l'église, à l'arrière de l'église se situe un cimetière dans lequel on pénètre après avoir poussé un vieux portail rouillé. Et là, quand on rentre dans ce cimetière, il ne reste que quelques pauvres sépultures, l'image est poignante. En tout cas, moi, l'image que j'ai eue ce jour-là du cimetière, c'était des tombes dévorées par la végétation, une ambiance très glauque avec un ciel d'encre à l'horizon barré par la chaîne des Pyrénées, quelques fleurs ça et là.
Pourquoi est-ce que l'entreprise Iberduero, qui menait le projet d'un lac de retenue qui aurait englouti plusieurs villages dans le secteur, a finalement fini par lâcher l'affaire?
Parce que dès le début, ce n'était pas rentable. Ils avaient l'obligation, dès le début du XXe siècle, de rendre l'utilisation de l'eau prioritaire pour l'irrigation. Et ce droit d'arrosage de l'Aragon l'emportait sur le droit de produire de l'électricité. Sur l'eau, ici, à Sobrarbe, dans cette région, s'appliquaient d'anciennes lois rendant prioritaire l'irrigation des champs. Si le projet ne s'est pas fait, finalement, c'est grâce à l'Europe, parce qu'il y a eu des directives spécifiques sur l'usage de l'eau.
Au départ, Marie-Sancho Menchon, pour quelles raisons vous êtes-vous intéressée à ce village un peu maudit ?
Parce qu'en 2004, on a appris cette nouvelle incroyable que le barrage ne se ferait pas, parce que l'évaluation de l'impact environnemental par l'Europe était défavorable et donc le projet était annulé. L'annulation pure et simple de ce projet était à la fois une nouvelle merveilleuse et un événement terrible et dramatique puisque toute la souffrance infligée à tant de gens pendant toutes ces années n'avait finalement servi à rien. Ranovas devenait aussi le plus grand symbole de la brutalité des politiques hydrauliques de ce pays au XXe siècle.
Certaines personnes qui ont des attaches à Ranovas sont revenues investir quelques maisons pris de très gros travaux, c'est de l'ordre de l'exploit d'ailleurs, et d'un certain entêtement.
Oui, et sur leurs fonds propres, c'est-à-dire que les travaux qui ont été engagés l'ont été sans aide d'aucune sorte, en tout cas aucune aide d'État à l'époque. Donc très vite, les habitants se sont organisés en association pour collecter des fonds et ont commencé à rebâtir en puisant dans ces fonds.
Et puis il y a une ultime arnaque de la part d'Hibert Duero, qui était l'officine chargée de présider à l'installation du barrage et du lac de retenue. C'est que, grosso modo, Hibert Duero a confisqué et préempté les maisons, après en avoir expulsé les habitants. Et puis, il les leur a revendus.
Voilà.
Ça, c'est fort, quand même.
Ça a été le scandale dans le scandale. C'est-à-dire que Hibert Duero, quand la rétrocession est prononcée par le gouvernement espagnol, Hibert Duero propose à ceux qui le veulent de racheter leur maison, leur terre, mais au prix du marché. Ce qui est absolument invraisemblable. Eu égard au préjudice subi, au manque à gagner de tous ces gens qui vivaient de la terre, d'une terre qui, depuis 50 ans, ne produit plus. Donc on leur propose ni plus ni moins que de racheter au prix du marché. Donc la résistance s'organise encore une fois. Et ils vont se battre, et ils rentrent dans un long combat juridique contre l'État espagnol. À ce moment-là, il y a une scission dans l'association, c'est-à-dire les uns veulent qu'on leur restitue leurs biens gratuitement, et les autres veulent négocier. Et finalement, cela se fera sur la base d'une négociation. On leur proposera à un moment donné de racheter leurs terres à 1 euro du mètre carré, et 4000 euros, je crois, l'hectare de terre agricole. Donc je crois qu'il y a une trentaine de familles qui s'engagent dans cette voie. Et moi, quand je retourne en 2016 à Janovas pour la traditionnelle fête de la San Miguel, le village est en reconstruction, c'est-à-dire qu'il y a à l'époque deux, trois maisons qui commencent à renaître de leurs ruines. C'est extraordinaire. Donc ce jour-là, d'ailleurs, le village est pavoisé, les habitants organisent une grande fête, on tire des fusées, etc. Enfin, c'est un petit peu le symbole d'une résurrection qui est en marche. D'ailleurs, à ce moment-là, ceux qui reconstruisent sont très souvent les enfants, voire les petits-enfants de ceux qui ont été expulsés. Dans les personnes expulsées, beaucoup n'ont pas survécu, c'est-à-dire beaucoup de vieux dont on m'a parlé se sont retrouvés à devoir vivre à Barcelone ou Saragosse, ils n'ont pas supporté l'exil. Certains sont morts dans les quelques mois ou les quelques années qui ont suivi leur expulsion. Donc ce qui est touchant aussi dans cette histoire, c'est que ce sont leurs enfants et aujourd'hui leurs petits-enfants qui poursuivent cette œuvre de réparation, cette œuvre de résilience. Et ils y parviennent.
Des années et des années, Ranovas a été complètement abandonné, les maisons continuant de se dégrader doucement. Cependant, on s'aperçoit qu'il y a eu des travaux pour remonter certaines maisons, sans doute au prix d'un labeur intense.
Avec beaucoup d'efforts, on est en train de réussir que chacun reconstruise sa maison.
Et vous l'avez fait,
Jesús Arces?
Oui, moi j'y habite ici.
Ça doit être un sentiment étrange d'habiter une maison récemment rénovée au milieu de ruines dont on ne peut plus rien espérer, pour certaines.
Pues sí, es muy extraño.
Alors oui, c'est, tout à fait, c'est très étrange, car on est ici, mais il y a des ruines. Moi, concrètement, j'ai une ruine à gauche et une ruine à droite de chez moi. Donc je suis entre deux ruines.
Et puis de nos jours, il y a quand même très peu d'équipement. On voit un poteau électrique avec un fil. Enfin, tout ça est assez rudimentaire. La vie ne doit pas être très simple ici.
Non, tenemos todos los servicios.
Nous avons tout, tous les services, nous avons l'eau courante, nous avons l'électricité chez nous, nous avons les égouts, nous avons tout, vraiment. On a demandé des subventions au gouvernement d'Aragon que nous avons reçues à travers le parti politique Junta Aragonesista et des subventions de 100 000 euros par an. Pour faire tout ça.
Par personne ou au total?
Eran 100 000 euros para ir haciendo las calles, poner todos los servicios
pour tous. Por tramos. On a fait tout le village par partie. Au début, on a commencé par une rue, après, on a fait une autre rue, et comme ça, peu à peu, on a refait toutes les rues de tout le village.
Y la de aquí del medio, hicimos un trozo.
Et vous pensez que le mouvement va se poursuivre, qu'on va réussir à remonter d'autres maisons en ruine et les rendre à nouveau habitables?
Yo creo que sí, que
moi,
será habitable
que, oui, totalement. Que le village sera habitable complètement.
Bel optimisme.
Sí, sí.
Oui, oui, tout à fait. Ici, à Ranoas, il faut être optimiste.
Hein. Il manque un bureau de poste et un bistrot quand même, non?
Bar, nous tenemos. Avons un bistrot.
Lo que correos, ahora estamos
la poste, on est en train de faire pression pour qu'ils viennent ici nous laisser les lettres dans nos boîtes à lettres.
Lors de ma visite en 2016, en septembre 2016, lors de cette fête traditionnelle à Janovas, pour la Saint-Michel donc, il y a deux photos qui me touchent. Une, c'est deux jeunes qui accrochent dans les rues du village des guirlandes. C'est la fête à Janovas. Et une image positive, quoi, une image là aussi de vie qui revient. Et puis, surtout, ce jour-là, plusieurs des anciens habitants de Janovas sont venus me voir et m'ont demandé de les photographier sur le pas de la porte, ou en tout cas ce qu'il en restait, de leur maison. Et en particulier, un couple de personnes âgées, José et Pilar Lacambra, qui résidaient à ce moment-là à Barcelone. Leur regard est lourd sur cette image, leur regard est chargé d'émotions. Et je saurai quelques temps après que ça sera leur dernière photo en ces lieux, puisqu'ils sont décédés l'un et l'autre quelques mois après. Mais ils ont quand même eu la satisfaction d'assister à cette belle fête de la renaissance du village.
Quand ils ont fini de reconstruire l'école et qu'ils ont fait la fête dans ce bâtiment-là, dans la salle de bal, c'était très émouvant de voir comment, pour la première fois, il y avait à nouveau de la fumée qui sortait d'une cheminée de Janovas. Parce qu'ici, ça, c'est un signe de vie.
Ça va faire 10 ans que vous fréquentez Janovas, Pierre Dufour, photographe.
Cette année, j'y étais deux fois. Une fois au printemps, parce que je voulais faire des photos au drone du village. Et ces photos-là sont intéressantes parce que, vu du ciel, on peut constater de manière très prégnante la résurrection de Janovas. C'est-à-dire, vu du ciel, on voit déjà 5 ou 6 toits neufs qui parsèment comme ça le village. Et je trouve cette image extrêmement positive.
C'est le premier pas pour sauver une maison en ruine.
Voilà, le toit. Un toit neuf.
Oui, je voulais parler du four communautaire, parce que reconstruire ce four, aujourd'hui, ce n'est plus pour faire du pain, c'est pour faire la fête et partager des repas ensemble. Et ça illustre bien la façon d'être de nos jours des habitants de Janovas. Parce que les villageois ont beaucoup souffert et n'oublieront jamais ce qu'on a fait à leur village. Mais ils ont du courage et la joie qu'il faut pour revenir et faire revivre ce qu'il y avait ici avant.
Jesús Garcés a reconstruit sa maison et je l'ai rencontré en 2023, puisqu'en 2023, j'ai été invité à exposer des photographies de mon reportage sur Janovas dans les ruines du village pour la fête symbolisant la renaissance de Janovas.
Ce sont des panneaux de nylon qui sont toujours...
Oui, ce sont des bâches en fait qui sont accrochées le long de la rue principale, accrochées au mur des maisons. Cela fait sens pour moi. Et Jesús Garcés, donc rencontré à cette occasion, me racontait qu'il allait passer son premier hiver dans sa maison fraîchement reconstruite et il en concevait une certaine inquiétude. Il ne savait pas trop comment allait se passer cet hiver, car entre idéaliser une possibilité de vie nouvelle dans le village de son enfance et puis l'affronter, particulièrement en hiver dont on sait qu'il est très rude dans les Pyrénées, voilà, je l'ai quitté sur cette note d'inquiétude, mais il avait l'air déterminé.
Qu'est-ce que vous faites au jour le jour à Janovas, qui n'existe presque plus, sauf quelques exploits de remontée des maisons, et à quoi pensez-vous quand vous vous promenez parmi les ruines?
Pues estamos cómodamente, porque...
On est à l'aise, car tu vois toujours quelqu'un, tu croises toujours quelqu'un qui vient visiter le village.
Pues tenemos que ir haciendo cosas.
Et puis,
ahora,
il y a des choses à faire. Maintenant, en hiver, c'est plus tranquille, mais en été, huerta, nous avons du travail. Il y a le jardin potager où on met des choses pour manger. Il y a des tomates, des laitues, des légumes pour pouvoir manger.
Et vous êtes dans quel état d'esprit, Jesús Garcés, lorsque vous sortez de votre maison fraîchement réhabilitée et que vous vous promenez dans ces ruines? Là, aujourd'hui, on a un beau soleil d'hiver, mais c'est pas toujours comme ça. C'est quand même mélancolique, très émouvant, et même beau, peut-on dire.
Pues sí, te da alegría. Sales de casa, puedes salir a la calle.
Pour moi, j'ai la joie quand je sors de chez moi, car je suis content d'être ici.
Porque fuimos los últimos en salir del pueblo.
On a été les derniers, toute ma famille, à sortir d'ici, du village. Et je suis le premier, moi, à y être venu.
Qu'en pensaient les gens, vos amis, de cette idée-là?
Bueno, algunos nos dicen que estamos locos porque estar aquí
solos.
Il y a
un peu de tout. Et il y en a qui trouvent qu'on est fou, car nous sommes ici et alors que tout est en ruine. Mais il y en a d'autres qui sont heureux que l'on soit ici, qu'on accomplisse nos rêves.
Il y a des raisons d'être optimiste, au moins un peu. Mais oui. Globalement, cette histoire est terriblement triste. Tout ça pour rien.
Tout ça pour rien, c'est un gâchis considérable. Bon, qui se finit bien, la déshérence ne mène pas forcément à l'abîme. Janovas en est la preuve, voilà. C'est encore une fois, c'est une histoire de revanche et de résilience qui force le respect. Mais que de douleur, que de sacrifice, que de souffrance.
On est au pied de l'église de Janovas et de sa tour carrée. Et c'est pas mal en hauteur et ça nous donne une idée générale de ce village ruiné qu'on tente néanmoins de remonter partiellement.
Es un pueblo que
c'est un village
se ven solamente paredes
dont on ne voit que des murs dénudés, éventrés, avec des petites fenêtres.
Solo hay piedra y cielo.
Il n'y a que des pierres et le ciel. C'est difficile à le voir, à le distinguer, parce qu'il se confond avec les roches, avec la terre. Et heureusement, pour redonner de l'espoir à toute la vallée, il y a au moins à Janovas quatre maisons avec un toit et une cheminée d'où sort de la fumée.
La vie. On a l'impression que ce village un peu maudit finit par prendre sa revanche.
Janovas est le symbole du désastre qu'a été dans ce pays la politique hydraulique et de comment il est nécessaire de récupérer pour la première fois ces villages détruits.
Lors de mon dernier séjour à Janovas, le 30 septembre 2023, il y a une image entre toutes celles que j'ai faites ce jour-là. Il y avait 200 personnes invitées à un banquet géant. Ce jour-là était très émouvant aussi. On pouvait voir au fil des rues du village des vieux assis sur le pas de leur maison en reconstruction, des enfants jouer dans les rues, une vie presque normale. Et puis une photo en particulier me touche, c'est celle de Jesús Garcés avec son frère et sa fille qui posent devant l'exposition de mes photos, devant en particulier la photo de sa famille que j'avais prise en 2016 devant leur maison en reconstruction. Et sur le t-shirt qu'arbore fièrement la fille de Jesús est écrit « Janovas insurmergible »,« Janovas insubmersible ». Voilà, Janovas n'a pas coulé.
Janovas, village fantôme, village maudit, village insubmersible. Avec Jesús Garcés, ancien et nouvel habitant de Janovas, Pierre Dufour, photojournaliste, Mari Sancho Menjón, historienne et écrivaine, Oscar Espinosa de la Fondation San Miguel. Traduction et voix française, Virginia Salas Sass, Lydia Benisrak et Arnaud Carbonnier. Prise de son studio, Mélodie Eichmann et Anthony Thomasson. La Habanera Triste de Manuel Dominguez était interprétée par la Ronda de Boltania. Merci à Eva Munoz-Buisan, Pascal Desmichel, Manuel Larossa, José María Santos, à l'Institut des études aragonaises à Huesca et particulièrement à Teresa Sass. Bibliographie, liens et podcasts sur franceculture.fr. Documentation, Annelise Signoret. Recherche musicale, Antoine Buyoz. Coordination, Johanna Bedeau, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par François Teste.